Bonjour. Les attentats de janvier dernier ont replacé au centre des débats les questions touchant à la liberté d'expression, à la laïcité, aux religions et aux phénomènes de radicalisation. Autant de sujets sur lesquels les chercheurs peuvent apporter leur expertise et à qui le CNRS, le journal.fr, va donner la parole dans différentes émissions. Et donc aujourd'hui, nous allons aborder l'islam et les différents courants de l'islam. L'islam, on en parle beaucoup et plus on en parle, plus on découvre sa complexité. Et c'est cette complexité que nous allons explorer aujourd'hui en répondant à quelques grandes questions comme qu'est-ce que l'islam ? Existe-t-il un islam ou des islams ? Quels sont les différents courants, sunnisme, chiisme ? À quoi correspondent-ils ? Que signifie le djihadisme ? Ce terme revêt-il la même signification pour tous ? Alors avec nous pour en parler, nous avons trois chercheurs. Marie-Laure Boursin, qui est anthropologue et chercheur, et qui a consacré sa thèse de doctorat sur l'apprentissage islamique des institutions religieuses, comme les mosquées et l'école coranique en France et aussi en Bulgarie. À notre table également, Pierre Laurie. Pierre Laurie qui est directeur d'études à l'École pratique des hautes études en section des sciences religieuses, chaire de mystique musulmane. Pierre Laurie est membre du laboratoire d'études sur les monothéismes au CNRS. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la mystique et l'ésotérisme en islam, dont « Le rêve et ses interprétations en islam » qui a été réédité chez Albin Michel en 2014. Nabil Mouline, enfin, qui est chargé de recherche au CNRS, à l'École des hautes études en sciences sociales. Ses thèmes de recherche sont la construction sociale de l'autorité religieuse en islam. Il est notamment l'auteur des clercs et l'islam, autorité religieuse et pouvoir politique en Arabie Saoudite, aux presses universitaires de France. Alors à vous donc la première question, Nabil Mouline. Déjà, suivant qu'il prend ou non une majuscule, le mot islam a deux significations différentes. Quelles sont-elles ?
En effet, un certain nombre d'orientalistes de plusieurs décennies essayent de faire une distinction entre islam avec un i majuscule et un islam avec un i minuscule. Quand on utilise le terme islam avec un i majuscule, on se réfère généralement à toute construction politique, étatique, culturelle, en somme une construction civilisationnelle. Tandis quand on utilise le terme islam avec un i minuscule, on se réfère à l'islam en tant que religion, c'est-à-dire un certain nombre de doctrines, de pratiques et de rituels. Mais il faut noter que cette distinction est savante et n'a pas d'équivalent dans le langage courant, et elle a encore moins d'équivalent en langue arabe, où il n'y a pas de distinction entre le politique, le religieux et le civilisationnel, du moins à l'époque classique.
Alors dans ces conditions, comment définir l'islamisme ?
L'islamisme en fait est un phénomène et une idéologie contemporaine. Il est une réponse à l'irruption de la modernité dans les espaces arabo-musulmans. Cette idéologie, ou du moins ses dépositaires, essaye d'apporter une réponse globale aux musulmans qu'ils considèrent comme en proie à un déracinement. Et pour donner un exemple concret, j'arriverai à la pensée du fondateur de la confrérie des frères musulmans, Hassan el-Banna, en 1928, qui va donner la structure générale de la pensée islamiste contemporaine. Pour lui, il faut islamiser la société par le haut et par le bas, c'est-à-dire diffuser ce qu'il considère le véritable islam, conquérir le pouvoir, ce qui donne un état qu'il appelle état islamique. Et petit à petit, les États islamiques vont se multiplier. On va conquérir le pouvoir, ça et là, dans le monde musulman. Ces États islamiques vont s'engager dans une coopération étroite pour aboutir au démantèlement des frontières héritées de la colonisation et la création du califat, la monarchie universelle.
Alors justement, on entend beaucoup parler du califat lorsqu'il est question des trois grands courants de l'islam. Quels sont-ils ?
En effet, la question du califat est une question centrale. Elle a fait couler beaucoup d'encre et de sang tout au long de l'histoire arabo-musulmane. Et comme vous le savez, le prophète de l'islam concentrait entre ses mains pouvoir politique et pouvoir religieux. Et à sa disparition en 632, ses disciples continuent dans la même dynamique en créant l'institution califale, une sorte de monarchie universelle avec des prérogatives quasi illimitées. Mais le contrôle de cette institution va susciter des luttes entre les principales figures de l'islam, ce qui va aboutir à plusieurs guerres civiles tout au long du 1er siècle de l'Égypte. Cela va donner naissance à plusieurs factions politico-religieuses, et ces factions-là, après des développements très complexes durant plusieurs siècles, vont donner naissance aux trois principaux courants de l'islam. Le sunnisme, qui est majoritaire, les sunnites constituent plus de 90% de musulmans, les chiites, qui constituent environ 8 à 9% de musulmans, et les kharijites, environ 1%.
Voilà, alors Pierre Lory, il y a d'autres courants ou attitudes comme la mystique, la rationaliste et la légaliste. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ?
Oui, pour les musulmans, il est clair que la référence principale, sinon unique, c'est le Coran. C'est-à-dire que devant chaque question qui se pose, doctrinale ou pratique, à un musulman, il va en référer au Coran. On peut dire donc que toute la pensée musulmane est entièrement une pensée exégétique. Mais bien sûr, le Coran n'est pas un livre univoque. On peut le lire de façon très différente. Et au fil des siècles, on peut dire qu'il y a trois attitudes principales qui se sont dégagées. Comment comprendre le Coran ? À la fin du deuxième siècle, il y a une partie des intellectuels qui ont dit que le Coran est un livre qui doit être compris de façon rationnelle. C'est-à-dire que la raison humaine est un outil suffisant pour l'expliquer. Ils se sont mis à expliquer le Coran et tous les versets qui semblaient mettons, contradictoires ou trop paradoxaux, ils l'ont expliqué en fonction d'une logique humaine, comme mettons, Dieu affirme qu'il peut guider qui il veut et perdre qui il veut. Ces courants, les Mu'tazilites disent non, Dieu ne peut faire que ce qui est juste. Et donc, cela veut dire simplement que même s'il est tout-puissant, Dieu récompensera et punira en fonction des actions des hommes. Ce premier courant rationaliste a été pris à partie par le second courant qui a eu le dessus, un courant plus littéraliste qui dit non, ce n'est pas la raison humaine d'arbitrer et de juger ce que dit le Coran. C'est le contraire, c'est le Coran qui est là pour éclairer une raison humaine qui est faible, qui est erratique, qui est dominée par les passions. Et donc cette tendance qui va dominer le sunnisme va asseoir une attitude disant on prend le Coran dans son sens littéral et s'il y a tel ou tel point qu'on ne comprend pas, comme mettons la prédestination ou le libre arbitre, comment faut-il choisir, et bien dans ce cas, on ne se prononce pas parce que nous ne pouvons pas juger. Donc il y a une suspension du jugement en quelque sorte et c'est une attitude qui va s'articuler sur l'idée qu'on ne peut pas connaître Dieu. L'essentiel, ce n'est pas de spéculer au point de vue théologique. La révélation a été donnée pour obéir à Dieu, c'est-à-dire un musulman doit d'abord savoir quoi faire et non pas quoi penser. Donc c'est une attitude très pratique et qui sera dominée par les juristes. Il y a une troisième attitude alors très différente, enfin qui se superpose en quelque sorte aux autres, qui est de dire que le Coran a un message pour les âmes, permettant aux âmes de se rapprocher de Dieu. Donc c'est une lecture mystique du Coran qui dit qu'il y a un sens caché, un sens ésotérique, enfin des sens cachés sous chaque verset du Coran qui aide l'âme à se rapprocher de Dieu, comme par exemple de dire le Coran parle du prophète Moïse qui monte sur la montagne du Sinaï. En fait, c'est un symbole de l'âme qui monte vers Dieu pour s'unir à elle, écouter ses paroles.
Alors je reviens un petit peu au courant dont vous nous avez parlé, Nabil Mouline, le sunnisme qu'on voit surtout en Arabie Saoudite et vous êtes spécialiste de cette région. Et le wahhabisme apparaît comme la légaliste par rapport à ce dont vient de nous parler Pierre Lory. En quoi ça consiste ?
En effet, le wahhabisme est le représentant par excellence du légalisme à l'époque contemporaine. En fait, c'est une tradition et une doctrine qui est apparue en Arabie centrale au XVIIIe siècle grâce à la prédication d'un certain Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui est un juriste hanbalite, qui est une école juridique et théologique du sunnisme qui date du Xe, XIe siècle. Et Mohammed ibn Abdel Wahhab, en fait, n'a fait que réactiver cette tradition au XVIIIe siècle. Il n'avait presque rien d'original, sauf son enthousiasme pour propager ce qu'il considérait comme la vraie religion. Mais il y a quand même une distinction à faire entre le wahhabisme et le hanbalisme traditionnel. C'est que Mohammed ibn Abdel Wahhab a considéré qu'à son époque, tous les musulmans contemporains sont tombés dans l'idolâtrie et qu'il fallait rétablir le monothéisme selon sa conception, c'est-à-dire selon la conception hanbalite. Et pour lui, il fallait obéir au credo hanbalite et à l'orthopraxie hanbalite, c'est-à-dire la somme de pratiques et de normes déduites par les oulémas hanbalites tout au long de l'histoire. L'autre variable très importante, c'est qu'il condamne le mysticisme définitivement. Pour lui, le soufisme, la mystique musulmane, ne faisait plus partie de l'islam. Et ça va devenir l'une des marques de fabrique du wahhabisme. Et on l'a vu, par exemple, à travers un des avatars du wahhabisme, c'est-à-dire l'organisation d'État islamique. Après la conquête de la ville de Mossoul en 2014, la première chose qu'ils avaient faite, c'était la destruction des mausolées qu'ils considéraient comme des lieux de culte non musulmans.
Alors justement, vous écrivez que l'avatar commun au wahhabisme saoudien et aux frères musulmans, c'est le djihadisme. Vous pouvez nous préciser un peu ça ?
Bien sûr. En fait, le djihadisme est tout d'abord issu de l'une des factions des frères musulmans. En Égypte, tout d'abord, il est issu essentiellement de la pensée d'un intellectuel qui s'appelle Sayyid Qutb, qui a été exécuté par le président Jamal Abdel Nasser en 1966, et qui, lui, d'un point de vue politique, va reproduire plus ou moins les idées de Mohammed ibn Abdel Wahhab, auteur qu'il n'a, selon toute vraisemblance, jamais lu, mais ils avaient des références communes. Il va en effet dire que le monde contemporain est un monde d'infidèles et qu'il fallait le réislamiser. Et il va faire une séparation symbolique entre le monde de l'islam et le monde de l'ignorance. Et il va considérer qu'il n'y avait plus qu'une petite minorité de croyants. Et cette minorité de croyants devait s'isoler du monde, se construire une plateforme, puis conquérir le monde de l'ignorance à travers le jihad.
Le monde des mécréants.
Le monde de l'ignorance des mécréants. Lui, il appelle ça le monde de l'ignorance, de la jahiliya. C'est un terme plus fort que le terme de mécréance. Parce qu'il évoque dans la mémoire collective la période pré-islamique. Et ce jihad va devenir l'outil principal de cette mouvance, c'est-à-dire conquérir le pouvoir, islamiser la société par le combat. Et dans un premier temps, cette mouvance va s'épanouir en Égypte durant les années 70 et au début des années 80. Et leur acte le plus célèbre est l'assassinat du président égyptien Mohamed Anwar el-Sadat en 1981. Mais Cette mouvance va en quelque sorte améliorer son pédigré grâce à l'expérience afghane. En Afghanistan, les dépositaires de la pensée de Sayyid Qutb vont rencontrer les dépositaires de la pensée de Mohammed ibn Abdel Wahhab sur place. Et il va y avoir une hybridation. Ces gens qui étaient plutôt des activistes politiques utilisant la religion vont trouver en le wahhabisme un véritable logiciel, parce que le wahhabisme entre-temps s'est érigé en véritable orthodoxie par rapport à laquelle tout le monde se positionnait. Et à partir de ce moment-là, on va essayer non seulement d'utiliser la pensée frère musulman, c'est-à-dire le domaine politique, création de l'État islamique, puis la conquête du monde,
ce que vous appelez le politico-religieux.
À côté de ça, on mobilise l'orthodoxie et l'orthopraxie wahhabite, c'est-à-dire on est les dépositaires de la seule vraie religion. Et petit à petit, cette mouvance-là va avoir un nom, Al-Qaïda, dans la figure de Prou et Oussama Ben Laden. Et puis par la suite, il va y avoir un nouveau changement, un nouvel avatar d'Al-Qaïda, c'est l'organisation d'État islamique qui va émerger à partir de 2004 en Irak sous le nom d'Al-Qaïda en Mésopotamie, puis organisation d'État islamique en 2014.
Et donc, vous, Pierre Lory, vous estimez que le djihadisme dont on vient de parler a une approche millénarisme. Vous pouvez nous expliquer plus précisément cette...
C'est-à-dire que l'idée que la fin du monde est proche et que la justice va être rétablie par Dieu sur la terre existe déjà dans le Coran. Elle est très présente, hein, que la fin du monde est imminente. Et dans les enseignements du prophète qu'on appelle les hadiths, existe aussi beaucoup de prédictions. Et ces prédictions sont d'autant plus prises au sérieux maintenant par une partie des militants qu'ils expliquent que la fin du monde, les combats de la fin du monde auront lieu au Moyen-Orient, en Syrie, en Palestine, qu'à ce moment-là, les Juifs alliés avec des mécréants, les nouveaux mécréants, vont mener la guerre contre les musulmans qui seront une petite minorité, comme vient de le dire Nabil Mouline, qui luttera contre l'ignorance ambiante, qu'une guerre va s'en suivre et que finalement, donc, les forces musulmanes arriveront à dominer grâce à l'intervention de deux chefs, disons, envoyés par Dieu, à savoir Jésus revenu sur la terre et un personnage appelé le Mahdi. Donc ces guerres qui précisément ont lieu en Syrie, à travers des récits qui sont parfois très, très symboliques, mais en tout cas galvanisent une partie des militants djihadistes qui voient là une véritable prédiction de ce qui se passe maintenant. Et ce sont donc des militants qui, au fond, n'ont pas véritablement de programme, simplement qui sont complètement enthousiasmés par l'idée d'être l'élite, finalement, de l'humanité, le dernier restant des croyants qui vont être divinement aidés pour ramener définitivement la justice sur la terre.
Alors Marie-Laure Boursin, vous avez donc dans votre thèse étudié les différentes formes de catéchèse islamique. Qu'est-ce qu'on enseigne aujourd'hui en France dans cette, je dis catéchèse mais c'est peut-être pas le bon terme, dans cet enseignement islamique ?
Alors oui, effectivement, catéchèse islamique, c'est une expression pour un peu indiquer ce que c'est que l'enseignement à destination des enfants concernant l'islam. Alors déjà, il est multiple dans les formes, parce que ça peut être des associations culturelles islamiques qui font des formations à l'islam avec un enseignement de petites sourates qui aident les enfants après à apprendre à faire la prière. Ça peut être aussi un enseignement dans des écoles coraniques. Par exemple, j'ai fait des terrains dans des chionis, qui sont des écoles coraniques comoriennes, où là, il y a un maître coranique qui s'appelle le Fundi, qui lui va dispenser l'enseignement islamique, alors que dans le cas des associations culturelles, c'est en général différents professeurs qui enseignent. Certaines associations parlent d'éveil à la foi, c'est pour ça qu'on peut des fois le comparer à la catéchèse. C'est un enseignement assez sommaire des bases de l'islam. On apprend différentes choses sur la vie du prophète, comment faire la prière, comment se comporter bien avec ses parents, des choses vraiment basiques. Et l'étude en fait, que j'ai menée sur le terrain montre aussi que l'islam en France, c'est particulier. Il faut aussi voir le contexte de la présence de populations musulmanes en France. Et donc il y a des musulmans qui sont originaires du Maghreb, mais aussi originaire du Comore, de l'Afrique subsaharienne, de Turquie. Et évidemment, ça, il faut le prendre en compte parce qu'il peut y avoir des fois des différences dans les manières d'enseigner. Comme je dis, par exemple, chez les Comoriens, on retrouve beaucoup de ces écoles coraniques qui sont placées où c'est le maître coranique qui enseigne aux enfants. Voilà. Donc, ce que nous enseigne la catéchèse islamique en contexte français, c'est surtout que l'enseignement de l'islam est un enseignement plutôt basique, axé sur une connaissance minimale sur la vie du prophète et sur une pratique religieuse aussi.
Mais par rapport à ces différents courants, là, on vient d'entendre à la fois le sunnisme, le chiisme, à la fois les différentes attitudes. Est-ce que ça varie en fonction de ces courants, l'enseignement, ou ce sont des bases communes à tous ?
Alors, il y a des différences en fonction des courants. On dit par exemple que les Maghrébins sont malékites, les Comoriens sont chaféites.
Alors malékites, est-ce que vous pouvez nous expliquer parce que
en fait, des écoles juridiques, oui. C'est-à-dire que ce sont des courants pour lesquels on va se référer d'un point de vue de la règle, de la norme aussi. Et donc chaque courant peut, les enseignants peuvent utiliser ce qu'on appelle des risalas, qui sont des épîtres dans lesquelles sont indiquées les manières de faire, des références entre guillemets quant à la pratique religieuse notamment. Alors les différences, honnêtement, on ne les voit pas, on les voit peu. On peut les trouver par exemple à la prière du vendredi à la mosquée, dans la gestuelle. Il va y avoir des différences, des positionnements des bras par exemple lors de la prière. Peut y avoir aussi des variantes, mais qui sont liées pas directement au courant, mais plus à l'origine culturelle des personnes. Par exemple, les Comoriens pratiquent le Hitima, qui est une fête qui intervient quand le jeune garçon ou la jeune fille a terminé la lecture du Coran dans le cadre de l'enseignement coranique. Ce sont des fêtes qu'on ne retrouve pas forcément chez les Maghrébins en contexte français. Donc il va y avoir des variantes, mais qui sont plus liées aussi à l'origine culturelle des personnes.
À vous entendre, on a l'impression que les différences se font essentiellement sur la forme, sur la pratique, mais sur le fond, ce qu'on apprend, il y a une sorte d'universalité du fond.
Alors, est-ce qu'il y a une universalité du fond ? C'est un peu dire de l'affirmer de la sorte. Disons qu'il y a un fond commun, sans doute, ne serait-ce que, par exemple, l'unicité divine, le rapport au prophète. Effectivement, ça, ce sont des choses communes qu'on va retrouver partout. Les différences liées à la forme, elles peuvent être visibles dans des détails. Après, ça peut être aussi dans la référence, mais je pense surtout dans le contexte européen et français, ce qu'il faut voir, pourquoi on ne se réfère pas. Les acteurs eux-mêmes ne vont pas forcément se référer à ces courants. C'est aussi parce qu'il y a une individualisation de la pratique ou un rapport, en tous les cas, qui peut être plus individuel de la pratique.
Alors, on a parlé tout à l'heure du djihadisme. Alors, peut-être qu'on va jouer de la définition. Qu'est-ce que le djihadisme, précisément ? Donc, vous en avez parlé, Nabil Mouline. C'est vécu, suivant les courants, de la même manière, le djihadisme ?
En fait, il y a deux grands courants du djihadisme actuellement. Il y a Al-Qaïda, d'une part, et l'organisation État islamique, d'autre part. Al-Qaïda prône une guerre contre l'ennemi lointain, c'est-à-dire opérer un certain nombre de frappes contre des points plus ou moins stratégiques dans les pays occidentaux qu'ils considèrent comme les suppôts des régimes en place. Par contre, l'organisation État islamique, qui est un avatar d'Al-Qaïda mais qui s'en est détaché en 2014, prône la création d'un État islamique, une plateforme où on va mettre en place un système politique qui va s'en transformer en véritable plateforme qui reconstituera l'unité originelle de la communauté à travers la recréation du califat. Et ce n'est pas un hasard si le chef de l'organisation État islamique s'est autoproclamé en juin dernier calife et a demandé à tous les musulmans de lui prêter serment d'allégeance. Et justement, il a inauguré une étape que la littérature djihadiste appelle la gestion de la sauvagerie, c'est-à-dire la gestion d'une période anarchique transitoire dans laquelle il y aura un combat de tous contre tous, ce qui va permettre petit à petit à l'organisation État islamique de faire tomber de plus en plus de pouvoir et de créer en fin de compte le califat. Et Al-Qaïda ne s'inscrit pas dans cette logique. Elle veut tout d'abord chasser les Occidentaux et notamment les Américains des territoires musulmans avant d'engager une confrontation avec les régimes en place. Il y a une autre différence entre ces deux groupes djihadistes, c'est que le groupe État islamique, vu le contexte irakien, est devenu très anti-chiite, et notamment grâce à son premier leader, le fondateur du groupe, qui s'appelle Abu Mus'ab al-Zarqawi, qui a inauguré une politique très agressive à l'égard des chiites, qu'il considère comme des non-musulmans et des cibles privilégiées. Et en fait, cette idéologie s'inscrit à la fois dans une dynamique religieuse, mais il ne faut pas oublier que cette idéologie est une sorte d'autochtonisation et d'islamisation des idéologies nationalistes européennes du XIXe siècle. Ce que fait maintenant l'organisation État islamique en Irak, n'est rien d'autre que du nettoyage ethnique pour créer un espace sunnite où on met en place une communauté imaginaire, un État national homogène.
Alors justement, on a parlé de chiisme et de sunnisme. En termes de répartition sur la carte du monde, on est plutôt avec une Arabie Saoudite sunnite, avec un Iran chiite. Et vous pouvez nous faire un petit peu les différentes implantations du sunnisme et du chiisme qui peuvent nous permettre de comprendre la géopolitique aujourd'hui qu'on constate.
Bien sûr. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, la répartition, c'est un petit peu différente d'une autre religion qu'est le christianisme, où il y a une sorte d'équilibre démographique entre les différents courants. Là, il y a une nette prédominance des sunnites. Les sunnites constituent à peu près 90% des musulmans. Ils sont à peu près partout du Maroc et l'Indonésie. C'est pour cela que je localiserai plutôt les communautés chiites. Il y a bien sûr l'Iran, où les chiites sont majoritaires. Les chiites sont également majoritaires en Irak, au Bahreïn, un petit émirat du Golfe. Il y a également une grande portion de chiites au Liban, une minorité de chiites en Syrie et également au Yémen, où il y a un conflit actuellement. Il y a bien sûr d'autres minorités éparpillées en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est et en Inde, mais le cœur du chiisme et du chiisme duodécimain, parce qu'il n'y a pas un seul chiisme, il y a des chiismes.
Donc on va, je vous arrête, duodécimain, vous pouvez nous expliquer.
Il y a en fait plusieurs branches du chiisme et trois seulement existent actuellement, principalement trois. Il y a le chiisme duodécimain qui est la religion d'État en Iran et qui est la religion de la majorité des chiites irakiens et libanais, par exemple, et on les appelle duodécimains parce qu'ils reconnaissent en fait une lignée de 12 imams, c'est-à-dire de guides inspirés descendants de Ali, quatrième calife de l'islam, qu'ils considèrent comme les héritiers légitimes justement du califat ou de l'imamat, c'est-à-dire la magistrature suprême. Il y a les zaïdites qui sont une autre branche du chiisme, mais qui est plus ou moins proche du sunnisme. Et il y a deux branches de l'ismaélisme, qui est une autre ramification du chiisme, dont une portion de la population existe au sud de l'Arabie Saoudite, en Inde et en Afrique de l'Est. Et encore eux, ils ont une autre lignée d'imams. Ils reconnaissaient sept imams, puis par la suite, ils ont eu une occultation, puis le rétablissement de dynasties et d'imams. Et les ismaéliens d'Inde reconnaissent toujours un imam en la personne de Karim Aga Khan. Et il y a la troisième branche qu'on oublie souvent de l'islam, qu'est les kharijites. Par exemple, la religion officielle du sultanat d'Oman, un pays du sud-est de la péninsule arabique, et une ramification du kharijisme qui s'appelle ibadisme. Il y a également des kharijites au sud-est de l'Algérie et à l'est de la Tunisie.
Voilà, là on a une belle cartographie. Pierre Laurie, vous voulez ajouter quelque chose ?
Je voudrais dire qu'on vient de parler du djihadisme. Il faut quand même se souvenir qu'il s'agit d'un courant ultra, ultra minoritaire, que ce soit au sein du sunnisme ou du chiisme. Donc maintenant, évidemment, il grossit par les événements, mais dans la communauté islamique globale, c'est un 1% ou un millième. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Qu'est-ce que le djihadisme ? C'est l'affirmation que la communauté musulmane est menacée, qu'il faut qu'elle se défende par les armes. Donc c'est le côté militaire. Et là, je pense qu'il faut quand même se souvenir combien c'est une option qui n'est pas partagée.
Voilà, et ça, c'est effectivement une mise au point très, très importante. Et puisque qu'on est dans les mots, souvent on confond aussi le djihadisme ou le djihad et l'itchihad, Marie-Laure Boursin. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ces différences et qu'est-ce que ça signifie ?
Alors, le djihad est habituellement traduit en contexte français par guerre sainte, mais ça peut être aussi l'effort personnel, ce qui correspond aussi à la notion de l'itchihad ou effectivement. Alors l'ijtihad, pareil, est un terme qui est polysémique. Il peut être interprété comme étant de la jurisprudence, c'est-à-dire quand on est face à un problème, quelle décision on doit prendre. Il faut qu'on réfléchisse, avoir un effort de réflexion et de connaissance pour savoir comment trancher et quelle décision prendre. Et dans ces cas-là, c'est un terme qui est plus employé d'un point de vue juridique. Mais ça peut être aussi un terme qui est employé pour parler de l'adaptation de l'interprétation coranique en fonction du du contexte dans lequel les musulmans vivent. Et puis, il y a aussi une troisième façon de comprendre l'ijtihad, qui est par exemple ce que les acteurs peuvent dire, c'est mais l'ijtihad, c'est faire un effort personnel d'interprétation et c'est un rapport personnel face à la règle, à la norme, en fonction des connaissances qu'on a de l'islam.
C'est plutôt spirituel.
Oui, et c'est vrai que par exemple, quand on peut... dans le discours des acteurs, ce que j'ai pu entendre quand on parle de djihad, justement en fonction du contexte français où c'est une notion qui est quand même très problématique, les acteurs vont dire « mais attention, le djihad, c'est pas forcément que la guerre sainte, c'est aussi cet effort personnel et il faut donner aussi un autre sens au terme djihad et plus parler d'ijtihad. »
Vous êtes d'accord, Pierre Laurie, Nabil Mouline?
Oui, disons, en ce qui concerne toute la branche mystique, par exemple, de l'islam, c'est quand même pas mal de millions de personnes. Il y a l'idée que le véritable combat, c'est le combat pour le développement de soi-même, pour l'élévation de soi, la transformation de l'être humain en un être plus proche de Dieu. Donc c'est un projet humain qui est complètement différent.
Alors c'est comme ça que peut-être on peut expliquer ce que vous avez souligné, le renouveau de l'expansion et l'expansion du traditionnalisme aujourd'hui, qu'il soit religieux ou qu'il soit politico-religieux comme le frérisme des frères musulmans, Nabil Mouline.
Justement, sur la question du djihad, il y a bien sûr cette dimension d'effort sur soi-même, grâce ou à cause de l'expansion du discours traditionnaliste, il y a une sorte d'homogénéisation du sens. Maintenant, jihad veut dire un combat contre les mécréants, qu'on soit religieux ou pas. On a vu que, par exemple, des régimes sécularistes comme celui de Saddam Hussein ou de Jamal Abdel Nasser ou le FLN contre les Français avaient déclaré le jihad contre les puissances étrangères. C'est-à-dire c'est un terme qui est mobilisateur et qui renvoie en premier lieu à un combat contre un ennemi extérieur. Et je reviens à la question du traditionnalisme. La question du traditionnalisme conservateur est très importante parce que ce courant-là, quelle que soit sa dénomination ou sa tendance, est hégémonique dans la zone arabo-musulmane depuis le haut Moyen-Âge. Et cette tendance à l'hégémonie a redoublé d'efforts tout au long du XXe siècle. Et je vais essayer là de parler des principaux vecteurs. Il y a bien sûr la dimension socio-économique très importante qu'il ne faut pas négliger, mais je vais parler de trois variables principales qui ont permis l'expansion de ce discours traditionnaliste, notamment dans les pays arabes. Il y a la politique étrangère de l'Arabie Saoudite. En effet, ce pays-là, depuis les années 1960, va mettre en place une véritable politique publique internationale de promotion et de propagation du wahhabisme, dans un premier temps à la faveur de sa lutte contre le panarabisme, mais après la défaite du panarabisme en 1967, l'Arabie saoudite va utiliser la propagation du wahhabisme comme de la soft power. Et pour ce faire, elle va créer un certain nombre d'institutions formelles et informelles, notamment la Ligue islamique mondiale, qui est plus ou moins un équivalent de l'Organisation des Nations Unies pour les musulmans. On va créer un certain nombre de structures éducatives, notamment l'université islamique de Médine, destinée à former des étrangers qui vont, une fois diplômés, aller porter la bonne nouvelle chez eux. Je vais vous donner un tout petit chiffre. L'université islamique de Médine a été fondée en 1961. Elle a depuis formé plus de 45 000 personnes de 170 nationalités. Il y a bien sûr la distribution d'ouvrages hanbalites et wahhabites à des prix modiques, voire gratuitement. Et à partir des années 90, l'Arabie saoudite va investir massivement sur les nouveaux médias, les chaînes satellitaires dans un premier temps, puis Internet dans un second temps, sans négliger les moyens traditionnels, c'est-à-dire l'envoi de prédicateurs, le financement de personnages et d'associations dans différents pays, notamment dans les pays occidentaux. Ça, en ce qui concerne l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite avait une politique, en quelque sorte, si on peut le résumer, c'était un wahhabisme pour tous. parce qu'elle le considérait comme la seule véritable religion. Et grâce à cette politique de promotion...
De prosélytisme
qui a été rendu possible grâce à la manne pétrolière dont dispose l'Arabie Saoudite, elle a pu faire du wahhabisme une nouvelle orthodoxie. Deuxième facteur important, c'est bien sûr les frères musulmans. Les frères musulmans ont joué un rôle très important dans la propagation du traditionnalisme à travers leur militantisme. La plupart des groupes réclamant la mise en place d'un État islamique, de la mise en place de la norme islamique qu'on appelle de manière approximative charia, etc., c'était grâce aux intellectuels et aux militants frères musulmans. Ils ont été par la suite supplantés plus ou moins par le wahhabisme, mais ils ont joué un rôle très important dans la popularisation d'un certain nombre de catégories, notamment l'islamisation de la société. Troisième facteur, qui est généralement un facteur oublié, c'est la responsabilité des régimes arabo-musulmans en place. Quel que soit leur background politique, ils peuvent être religieux mais également laïcs, voire athées. La plupart, voire la totalité des régimes arabo-musulmans ont essayé d'utiliser le traditionnalisme religieux pour imposer leur pouvoir aux populations. Dans un premier temps, ils ont mis la main sur les institutions religieuses traditionnelles, type Al-Azhar en Égypte, Zaytouna en Tunisie ou Al-Qarawiyyin au Maroc, ce qui a complètement décrédibilisé et déréglé le champ religieux local et lui a permis de devenir un champ ouvert et a permis l'émergence de plusieurs entrepreneurs privés du religieux qui ne sont pas contrôlés, notamment les frères musulmans et les wahhabites. Grâce à la politique saoudienne. Et justement, tous ces acteurs-là, dans un champ religieux libéralisé, vont, en se concurrençant pour avoir des parts de marché, vont lancer une surenchère traditionnaliste. Et autre rôle des régimes en place, c'est l'utilisation de ces idéologies, notamment les frères musulmans, puis les wahhabites, pour combattre les gauchistes qui étaient les opposants les plus décidés de ces régimes en place. On va leur donner la place dans les universités, les syndicats, etc., ce qui va leur permettre de contrôler une partie de l'espace social. Les régimes également vont essayer à la fois d'un petit peu de contrôler les frères musulmans, les wahhabites, tout en leur faisant, entre guillemets, plaisir. En adoptant une partie de leur discours et de leur répertoire d'action. Par exemple, on va introduire l'islam dans les constitutions, citer que l'islam est la religion d'État, que la charia est une source de la norme juridique et de législation. On va imposer un certain nombre de rituels publics. Les chefs d'État, même quand ils se réclament de régime laïque, d'idéologie laïque,
oui, on va revenir dans les pays laïques là.
Vont donner à voir leur piété. Ils vont profiter de toutes les occasions pour donner à voir qu'ils sont de bons musulmans. Par exemple, le président Anwar Sadat se faisait appeler le président croyant. Le roi du Maroc, Hassan II, se faisait appeler le commandeur des croyants et profitait de toutes les occasions pour montrer sa piété, etc. Saddam Hussein, à partir de 1991, va inscrire sur le drapeau irakien « Dieu est plus grand ». Et il va faire fermer les bars, les nightclubs, etc., et imposer à tous ses généraux de faire les prières à l'heure, etc. C'est-à-dire que tous ces facteurs-là permettent de mettre en place un système traditionnaliste qui devient de plus en plus hégémonique. Et justement, en 2011, et je termine par cette phrase, l'alliance tacite entre les frères musulmans et les régimes en place prend fin et les régimes, ou la plupart d'entre eux, ont commencé à s'appuyer sur les salafistes, c'est-à-dire c'est un autre nom des wahhabites, voilà. Pour simplifier.
Oui, merci.
Pour encore légitimer leur pouvoir, parce que les wahhabites sont anti-démocratie, anti-valeurs modernes et prônent l'obéissance absolue du gouvernant, quelles que soient leurs orientations.
Alors voilà, là on a fait une plongée dans les pays théocratiques. Et là, je voudrais qu'on termine notre rencontre sur ce qui se passe dans un pays comme la France, un pays laïque qui n'est pas théocratique. Et je me tourne vers vous, Pierre Laury, et je voudrais que vous nous parliez donc en France. Comment vous analysez justement cette religion en France ?
Je crois d'abord qu'il faut prendre acte de l'extraordinaire diversité de la situation des musulmans en France. D'abord, leurs origines sont extrêmement différentes, au point de vue ethnique, au point de vue culturel, au niveau de la classe d'âge également. Il y a des musulmans de souche, il y a maintenant pas mal de convertis d'origine française. Mais surtout, ce qui me frappe, c'est dans cet immense éparpillement où chacun essaye de pratiquer sa religion à des degrés différents, de façon extrêmement ponctuelle, souvent même c'est une espèce de bricolage personnel, il y a une très grande absence de référence à des personnes compétentes. C'est-à-dire que la grande majorité des musulmans français n'a pas de culture musulmane, ou peu de culture musulmane, a peu de références qui lui permettent d'avoir un comportement, disons, social. Et c'est surtout ça qu'il faut remarquer. C'est-à-dire qu'on demande maintenant à des mouftis autoproclamés sur Internet des avis, comment faut-il faire dans un pays comme la France, comme pour se nourrir, pour fréquenter, pour aller à l'école ou que sais-je. Mais au fond, il n'y a aucune autorité reconnue. Et donc, cette espèce d'immense éparpillement fait qu'il y a quelque chose à recomposer. On a un domaine complètement neuf qui ne s'est jamais posé dans toute l'histoire de l'islam, où auparavant, il y a toujours ce qu'on appelle les oulémas, ceux qui veulent la science des religions, qui était la référence de tout le monde. Eh bien, cette référence n'existe plus. Elle est à créer. Donc, pour faire l'état de la situation des musulmans en France, c'est un état qui est en devenir encore. Et c'est maintenant à la collectivité française d'essayer tout entière, musulmans et non-musulmans, à y amener une cohérence pour le respect des pratiques et de la foi.
Merci à chacun d'être venu. Et puis donc, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent trouver toutes vos coordonnées sur le journal lecnrs.fr, et qu'on peut avoir accès aussi à toutes vos recherches qui ont permis de nourrir ce débat. Merci beaucoup.
Merci. Merci à vous.